La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique.
Sono le 22:30.
Salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille, édition du 26 février 2017. Alors ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir l'artiste multidisciplinaire Herman Kulgun qui présentait en ouverture du mois multi une installation, une performance intitulée Impact.
Donc, j'ai commencé à jouer de la batterie à 12 ans. J'ai eu mon premier instrument électronique super jeune à 16 ans dans les années fin 70, tout ça. Et déjà de voir le son comme une dynamique sculpturale, comme une entité qui devient une matière malléable. D'un, ça s'associe très bien avec les images, mais juste en tant que son, c'est une matière qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, puis aussi de rentrer dedans d'elle. Là, on a des outils incroyables aujourd'hui pour être capable de travailler dans le minuscule, et même que le minuscule, tu peux l'étendre tellement qu'il devient majuscule. Tu vois, c'est... Et donc, le son, pour moi, devient des particules, si tu veux, un peu de... quasiment d'énergie que, dépendamment comment je les amalgame ensemble, deviennent hyper percutantes, au contraire, très, très, très douces. Mais il y a tout l'autre côté que je pourrais appeler le son comme la matière, qui pour moi, on peut pas dissocier les deux, mais il y a quand même tout un autre genre de travail quand tu commences à travailler le son de l'intérieur plutôt que de le penser pour construire une, entre guillemets, une chanson, tu vois.
Alors, on va faire un survol ce soir du travail sonore d'Herman Kulgun. On peut dire de Kulgun qu'il est un artiste multidisciplinaire au sens fort du terme. Il imagine, il conçoit depuis plusieurs années des univers cinétiques, visuels et sonores d'une grande complexité. Je dirais que c'est vraiment un artisan de la complexité, grandement inspiré par les idées et les technologies qui façonnent, qui transforment nos modes de vie. Il a créé des environnements immersifs, des dispositifs particulièrement riches sur le plan sonore. Je pense entre autres au projet Geographic World, Sismic, Different Train, inspiré de Steve Reich, qu'il a présenté avec l'Orchestre symphonique de Québec il y a quelques années. Et le projet Eoton, de grande sculpture cinétique présentée au Musée national des Beaux-Arts en 2015. Je le reçois en entrevue ce soir autour de son projet, son dernier projet qui a pour titre Impact. Impact, c'est un dispositif et une performance combinée, inspirée d'un fait divers qu'il va nous raconter, une blessure à la tête qu'Herman Kulgun va s'infliger en faisant du jardinage. Alors, le résultat est plutôt étonnant. C'est un projet artistique qui est devenu, en quelque sorte, pour lui et pour les spectateurs, une sorte d'exutoire là, des forces de joie et de frustration qui qui s'anime parfois en chacun de nous. Alors, tout ça pour dire que les sources de la création artistique sont parfois impénétrables, mais d'autres fois simplement issues des petits accidents qui jalonnent la routine quotidienne. Alors, on écoute Herman Colgan. Herman, bienvenue à La Croche-Oreille.
Merci.
Herman, on vient tout juste de sortir du spectacle qui s'intitule Impact. J'aimerais que tu nous parles de ce projet.
Ben, Impact, en fait, c'est un projet un peu atypique dans ma démarche, dans le sens qui m'est apparu un peu grâce, je pense que grâce est loin d'être le bon mot en fin de compte, mais suite à un accident que j'ai eu. Donc, je me suis perforé le crâne avec une tige de métal et donc assez violemment là, pour que le sang jaillisse un peu comme une baleine, donc un peu en panique. Évidemment, je suis allé à l'hôpital, à l'urgence et tout ça. Et le concept un peu de ce nouveau projet-là m'est venu un peu sur la chaise d'attente à l'urgence pour deux raisons. En fait, une, parce que j'étais vraiment un peu en rogne contre moi parce que c'était un peu de ma faute en fin de compte, comme d'habitude, un peu trop énergique, et de deux, parce que moi-même j'avais installé cette tige de métal là près de mon jardin et donc en voulant fermer la valve d'eau, je me suis rentré ça dans le crâne. Et là, je me suis dit, ça fait à peu près 20 ans que je travaille sur l'impact du territoire sur les êtres vivants et les êtres humains, et le territoire étant, dans la plupart des cas, travailler avec le vent, donc avec des capteurs de vent à l'autre bout du monde qui est envoyé par Internet pour contrôler des structures. Dans ma dernière performance avec Sismic, donc avec des datas en temps réel aussi, des fréquences de la Terre un peu partout sur la planète que je recevais sur la scène. Et là, je me disais, bon, tu sais, c'est cet impact-là finalement qui m'a toujours inspiré. Et presque, comment je pourrais dire, cet impact-là qui était un impact sur des éléments un peu invisibles, mais très forts, était presque rien par rapport à juste une tige de métal qui était dans mon entourage, qui était super proche de moi. Puis là, j'ai commencé à réfléchir un peu sur la plupart des accidents qui arrivent à des gens qui sont à proximité de leur maison, donc un accident de voiture qui est à moins de 2 kilomètres et tout ça. Et là, l'idée m'est venue de travailler sur la proximité de la violence. Donc, du territoire, mais d'un territoire maintenant qui est même humain contre humain, qui est, avec qui est des violences aussi psychologiques, parce que là aussi, on sait que souvent dans les agressions, ça va être dans la même famille, ça va être le conjoint, ça va être le voisin, ça va être dans les batailles de rue, ça va être dans des clics à l'école, l'intimidation. Donc, la proximité finalement de cette tension-là un peu urbaine ou hyper présente et intervient beaucoup dans la dynamique des gens.
Herman, si tu nous décrivais le dispositif en tant que tel pour les auditeurs à la radio, Impact s'est construit, comment? Il y a tout de même un dispositif qui est impressionnant, qui est de nature, là, qui fait de l'impact.
Mm-hmm, mm-hmm. Ben, en fait, ça, c'est venu aussi sur ma chaise d'attente, parce que le fait d'être en rogne contre moi-même, je me suis dit, la prochaine perfo, je pense que ça va être une perfo vraiment premier niveau, où je vais avoir un corps humain et je vais avoir un arme ou un objet, puis je vais vouloir vraiment attaquer ce corps-là jusqu'à un point inacceptable, jusqu'à un point presque que le public va tout sortir de la salle. Tu sais, puis j'étais prêt à aller jusque-là, en fait. Et j'ai commencé à imaginer à ce moment-là d'avoir une arme entre les mains. Donc, dans ce cas-ci, c'est un bazooka qui fonctionne réellement avec des balles qui vont à 250 km/h avec une cible. Et tout ça est retransformé. Donc je transforme un peu toute cette énergie-là un peu agressante avec des calculs en temps réel, donc en poésie ou en matérialisation, si tu veux, sonore et image. Donc, c'est de transposer un peu toute cette bad énergie-là en une énergie qui est beaucoup plus poétique de certains côtés. Dans mes essais puis dans toutes mes recherches, en fin de compte, ce que je me suis rendu compte, c'est que si je laisse aller le dispositif au naturel, donc la balle atteint la cible et il y a comme un corps virtuel qui attend sur l'écran, et ce corps-là va recevoir exactement l'impact calculé par la cible à la même endroit sur le corps avec la même force d'impact. Et si je le laisse aller, il meurt à peu près en 2 secondes, tu vois. Et l'instrument que je me suis créé, c'est d'être capable de ralentir, c'est-à-dire d'être capable de toute cette dynamique-là, d'être capable de l'étirer comme un élastique pour prendre ces 2 secondes-là et de l'amener peut-être à 1, 2, 3, 5 et même 1 an, si on veut, de l'étirer tellement. Et là, je me suis comme rendu compte en faisant des tests aussi avec des amis qui m'ont dit, écoute, waouh, il a l'air tellement bien, il est comme en flottaison, il est comme un peu en voyage astral, mais en fait, il est en train de crever, tu vois. Fait que juste un peu comme la pensée d'Einstein, de changer la perception de la relativité du temps, de prendre ce 2 secondes-là et de l'amener en 3 minutes, ce qui pourrait être un acte hyper violent et transformé en une extrême poésie.
Herman, je poursuis tout de même sur ce que tu racontes à propos d'Impact. Sur le plan philosophique, cette œuvre-là, parce que quand on la regarde, il y a tout de même une intensité dramatique, je dirais, et puis même sur le plan sonore, beaucoup de décibels. Sur le plan philosophique, tu nous amènes où avec ce projet-là?
Bien, en fin de compte, déjà moi, dans ma tête, c'est pas tout à fait en place, je te dirais, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de facettes et beaucoup d'aspects. Comme je le disais tantôt, je l'expliquais, il y a tout le côté d'un peu de la tension entre deux êtres humains qui peut être positive et aussi négative, toute la force morale qu'un être humain ou psychologique peut affliger à une autre personne, et on sait que ça peut aller très loin. Mais il y a aussi là-dedans toute la canalisation de l'agressivité. Puis ça, je me suis beaucoup questionné là-dessus. Moi, qui est déjà une personne qui est assez énergique, qui a quand même beaucoup... ça déménage, ça défonce beaucoup en dedans de moi. Je suis presque chanceux d'être capable de l'exprimer dans mon art. Tu vois, surtout que ce que je fais est assez... Et peut me permettre, à travers mes performances, d'être assez fort au niveau des fréquences, comme tu dis, des images et tout ça. Donc, ça me permet... De canaliser un peu cette énergie-là. Puis je pense que presque tout le monde arrive à un certain point à différents moments de leur vie. Et là, je peux le dire que politiquement, sur la planète, on arrive à un point que on se sent, en tout cas moi, je me sens impuissant de certains côtés. Même si on dit que oui, l'implication et tout ça, on se rend compte que des grandes personnes qui s'impliquent et réussissent même pas à faire changer des choses. Et là, je peux comprendre qu'il y a beaucoup de frustration à différents niveaux pour des personnes aussi délaissées par la société qui ont de la misère à vivre, à trouver leur place parce qu'ils ne fitent pas dans le créneau. La portion qu'on prépare pour les gens devient de plus en plus limitée d'un certain côté. Si tu ne fites pas là-dedans, si tu n'es pas actif dans la société, tu es assez rapidement en marge. Et quand tu deviens un peu... tu n'es plus capable d'intervenir dans ta destinée d'un certain côté. Je peux comprendre qu'il y a des personnes qui, même si j'endose pas ça, je comprends très bien qu'il y a des personnes qui en arrivent à des actes assez violents. C'est très, très dommageable, tu vois. Et ce projet-là aussi, il parle de cette canalisation. Quand tu ne peux plus la sortir, ton agressivité, au lieu de l'infliger sur d'autres êtres humains, comment tu peux la sortir de façon positive de l'intérieur de toi pour que ça devienne une soupape et quelque chose de bénéfique?
Hermann, je connais ton travail depuis plusieurs années. Comment tu définis Hermann Colgan comme artiste?
Je ne sais pas si je peux arriver à te définir. C'est sûr que...
Hermann, je vais reprendre la question.
Ouais.
Je vais reprendre la question. L'univers sonore, il est présent, omniprésent dans ton travail. Je me souviens de parler de Cosmic. On parle du projet Dust, le magnifique Different Train que tu as fait à Québec il y a quelques années. Quelle importance tu donnes à l'élément sonore dans le travail? Et pourquoi le son est si important pour toi? Parce que tu pourrais te suffire de d'images parfois, parce que les images sont elles aussi très percutantes.
Ouais, ouais. Ben, c'est sûr qu'à la base, moi, je suis autant artiste visuel que musicien. Donc, j'ai commencé à jouer de la batterie à 12 ans. J'ai eu mon premier instrument électronique super jeune à 16 ans dans les années fin 70. Tout ça, et déjà de voir le son comme une dynamique sculpturale, comme une entité qui devient une matière malléable. Ça s'associe très bien avec les images, mais juste en tant que son, c'est une matière qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, puis aussi de rentrer dedans d'elle. Hein, là, on a des outils incroyables aujourd'hui pour être capable de travailler dans le minuscule, et même que le minuscule, tu peux l'étendre tellement qu'il devient majuscule. Tu vois, c'est... Et donc, le son, pour moi, devient des particules, si tu veux, un peu de... quasiment d'énergie, que dépendamment comment je les amalgame ensemble, deviennent hyper percutantes, au contraire, très, très, très douces. Et je vois beaucoup le son. Bien, c'est sûr que on pourrait parler de la chanson. Je suis un grand mélomane, j'écoute beaucoup, beaucoup de disques, et il y a de la musique qui est aussi ce que j'appelle de la musique, donc avec des paroles, avec construit d'une certaine façon. Et ça me plaît aussi beaucoup. Mais il y a tout l'autre côté que je pourrais appeler le son comme la matière, qui pour moi, on ne peut pas dissocier les deux, mais il y a quand même tout un autre genre de travail quand tu commences à travailler le son de l'intérieur plutôt que de le penser pour construire une chanson, tu vois.
Silence. I love the noise. noisy silence there. Près de la sortie, il y avait une voiture isolée, rouge. Mais son côté était entièrement rayé, comme si une clé s'était vengée d'un long trait violent. Et là, ce qui m'a pris par surprise, c'est qu'il y avait une femme dans cette voiture, seule. Elle avait les pieds nus sur le volant, endormie, immobile, et le moteur en marche. Les pieds sur le volant, la fenêtre ouverte. J'ai contourné cette carlingue rouge. C'est étrange, mais l'égratignure faisait tout le tour de la voiture. Et à l'autre côté, près de la roue, il y avait une valise abandonnée sur le bitume crevassé. Je sais, c'est idiot. Ça a été plus fort que moi. J'ai pris cette valise et je suis partie en suivant la voie ferrée vers le motel. J'ai posé la valise sur le lit. Après quelques instants, j'ai tout de même ouvert la valise. J'ai trouvé que des vêtements et une grande enveloppe jaune dans laquelle il y avait un billet de train très froissé. J'ai pensé un instant prendre ce train. C'est toujours pareil, je m'emballe. Mais là, ma poitrine s'est serrée. Il ne me restait que 35 minutes. J'ai hésité, mais là encore, c'était plus fort que moi. J'ai pris le billet, la valise et un taxi en direction de la gare. Ouest de ton ombre.
Herman, tu as parlé de musique, tu as parlé de sonorité. C'est toujours un territoire risqué quand je pose cette question-là, mais tes sources d'inspiration en général dans le champ de l'art, dans la vie quotidienne, pour la construction de ton travail, qu'est-ce que c'est?
Ben, je pense que j'en ai vraiment beaucoup. Je suis assez bon public, en fait, et un peu comme même au cinéma, en fait, je suis très influencé par des artistes qui sont purement des artistes sonores, des artistes aussi qui vont travailler avec des installations, des objets, tout ça, mais aussi beaucoup, beaucoup par même, je te dirais, l'ingénierie, l'architecture, mais en termes de construction, mais retransposé aussi au niveau de la musique. Dans ma bibliothèque, j'ai énormément de livres de même sur les textiles, tu sais, je suis intéressé même par le maillage des textiles, puis fait que c'est drôle, au niveau des influences directes de quel musicien comme tel, je peux pas directement pointer du doigt précisément parce que c'est des amalgames, ça passe à peu près de tout. T'sais, étant super jeune, j'ai commencé à écouter du Frank Zappa, je pense que j'avais 14 ans, et donc déjà la façon d'aborder la musique était déjà... Puis en étant percussionniste, ben Steve Reich est rentré déjà dans ma vie à 18 ans, j'avais un vibraphone, fait que c'était déjà des influences. Mais c'était des influences qui étaient quand même... qu'on n'était pas encore dans la matière du son, c'est-à-dire qu'on s'en rendait pas compte, on jouait avec des tapes, on étirait les tapes, tout ça, ça devenait des textures intéressantes. Mais après ça, c'est certain qu'il y a eu toutes les influences de Brian Eno dans ses recherches un peu de travailler sur une façon atypique de travailler même avec le studio, avec la console d'enregistrement, avec les effets, non pas de juste rajouter un effet sur une guitare, mais de travailler la boîte d'effets comme un instrument en elle-même, tu vois. Et tout ça, bon, c'est poursuivi parce que je jette encore énormément de musique. Mais j'écoute aussi beaucoup de musique. C'est drôle, je sais pas comment nommer les musiques avec des chansons.
Peut-être que tu pourrais dire que la musique populaire, que la culture populaire demeure pour toi un élément dans lequel tu puises dans le quotidien.
Ouais, puis tu sais, même dans la culture populaire, comme moi, je suis un grand fan de Nick Cave ou de PG Harvey, est-ce que c'est... Oui, ça peut être populaire, mais en même temps, c'est un peu par le biais. Comme là, dans le spectacle Impact, j'utilise une pièce d'un groupe juste de femmes, mais qui déménage en mort, qui s'appelle Salvage, qui est presque pas connu. Mais ce genre d'énergie-là aussi, très brute, là, très, très rock, puis un peu en marge de ce qui peut passer à la radio, ça fait partie aussi beaucoup de mon énergie.
Jusqu'au bout de la rue Saint-André, je tournais à gauche.
tourné à gauche. J'ai traversé après le petit parc.
Herman, ça va être ma dernière question. On pourrait discuter ensemble encore beaucoup de temps. J'aimerais que tu nous parles de tes projets, ce qui s'en vient pour Herman Colgan là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, une fois qu'on quitte Québec.
OK. Ben, en fait, principalement, il y a beaucoup de choses comme d'habitude, mais principalement, je peux parler de sommairement de trois projets. Bon, évidemment, il va y avoir tout le recap de Impact parce que je m'attends de retourner un peu sur la planche avec Impact au moins pour 4 à 6 prochains mois pour, dépendamment un peu de la réception ici, de mon feeling, d'aller repenser à toute cette performance-là. La technique fonctionne super bien. Maintenant, moi, il faut que je re-questionne le contenu, ma façon de l'approprier, puis tout ça. Après ça, j'ai une exposition solo au Pérou au mois d'avril, début avril, donc je vais avoir 2 mois de boulot là-dessus. Et l'autre gros projet, en fait, ça fait déjà 1 an que je suis là-dessus, c'est que je travaille avec un accélérateur de particules. Donc, j'ai été en résidence en Europe et travaillé avec des scientifiques pour me servir du data des collisions un peu atomiques et de m'en servir pour la prochaine perfo. Dès que je vais avoir fini un peu ou d'être un peu satisfait avec Impact, je vais pouvoir recommencer un peu à travailler sur c'est Isotope, donc le nom de la prochaine perfo, mais qui est un autre défi et qui va être complètement différent parce que là, on est la thématique, l'énergie ne sera pas du tout la même. Fait que ça, je suis hyper excité aussi par ça.
Herman, grand merci pour cet entretien.
Bien, merci à vous, merci à toi.
Plaisir de te revoir à Québec aussi. Bientôt. Salut. Thank you. Alors, c'est sur cet embarquement ferroviaire que se complète, s'achève l'émission de ce soir, l'Accroche-oreille, qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, dimanche prochain, 21h, sur les ondes de CKRL 89,1. Je vous rappelle qu'on est en pré-radioton, alors donnez généreusement, allez jeter un coup d'œil sur le site de CKRL, le site Internet. Pour ce qui est de l'émission, l'Accroche-oreille, sur le site de l'Accroche-oreille, l'accroche-oreille wordpress.com, pardonnez-moi. Sur le site, vous allez retrouver le détail des pièces qu'on a fait jouer ce soir d'Herman Colgan. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et d'ici là, ben, soyez attentifs au son autour de vous.
Même si cela doit se voir, je vous propose de l'écouter.
Radio de ton enfant, notre objectif, $42,000. Donnez Radio de ton enfant. Donnez Radio de ton enfant, notre objectif, $42,000. Donnez Radio de ton enfant.
La fin de semaine du 31 mars.
Cette émission est disponible en balado-diffusion.
L'Accroche-oreille vous a été présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique.